Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue si vous nous rejoignez, l'antenne vous appartient comme tous les jours à 16h06, vous le savez, RFI vous donne la parole dans un instant. Vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité, vous connaissez le principe, hein, s'il vous manque des clés, des repères pour mieux décrypter tous les sujets que nous traitons à l'antenne, eh bien vous nous appelez, un seul numéro de téléphone, il est ouvert toute la journée, le soir vous tombez sur le répondeur mais vous nous laissez vos coordonnées, 33 9 693 693 70, 09 693 693 70 si vous nous appelez de France et vous nous postez évidemment vos questions sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de l'émission. Dans 30 minutes, un débat comme tous les jours et notre débat ce matin portera sur la réélection de Fornia Simbe. Avec près de 59% des suffrages, le président togolais a été réélu pour un troisième quinquennat. Fornia Simbe a d'ailleurs prêté serment hier devant la Cour constitutionnelle alors que son principal rival, Jean-Pierre Fabre, dénonce un scrutin frauduleux. La semaine dernière, il avait promis d'apporter les preuve de ces accusations, mais le chef de file de l'opposition n'a même pas déposé de recours devant la Cour constitutionnelle. Alors comprenez-vous l'attitude de l'opposition togolaise? Quelle est désormais la stratégie de Jean-Pierre Fabre? Et on élargira évidemment le débat en nous intéressant aux priorités de Fornia Simbe, qui est donc réélu pour un troisième mandat de 5 ans. 33 9 693 693 70. Il y a déjà beaucoup de réactions sur la page Facebook, j'en lirai quelques-unes tout à l'heure pour alimenter le débat et la réflexion. Passons donc au standard avec vos questions. Fulgence nous appelle d'Abidjan, il est en Côte d'Ivoire. Bonjour Fulgence.
Bonjour Juan, bonjour à la RFI, bonjour à tous les têtes de la Radio Mondiale.
Merci de votre fidélité. Vous avez des questions concernant le scandale qui secoue le monde du football ivoirien?
Oui, en effet, depuis quelques jours, on a appris dans la presse que les éléphants, tout nouveau champion, n'ont pas perçu leur prix. À ce sujet, j'ai deux questions. Mmh. Quelles sont les raisons de ce non-versement de primes? Quand pourraient être les conséquences? Est-ce que les dirigeants de la FIFA pourraient être poursuivis éventuellement?
La FIFA, la Fédération Ivoirienne de Football, Olivier Pron du service des sports est à mes côtés. Bonjour Olivier.
Bonjour Juan, bonjour Fulgence.
Trois mois après la victoire de la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations, certains joueurs, mais aussi certains membres de l'encadrement, y compris d'ailleurs le sélectionneur Hervé Renard, n'ont toujours pas reçu leur prime. Où est passé l'argent?
Ah, c'est la grande question. Il manque un million d'euros, oui. 700 millions de francs CFA, à peu près. La somme allouée, décaissée par le ministère, par l'État, c'était 3 milliards 500 millions de francs CFA, c'était pour la préparation.
5 millions d'euros.
Un peu plus de 5 millions d'euros, entre 5 millions et 5 millions et demi d'euros, c'était pour la préparation, pour la CAN, et puis pour les primes. Sur ces 5 millions d'euros, il y avait une bonne partie hein, pour les primes, je crois qu'il y avait, ça représentait un peu plus de 2 milliards de francs CFA, les primes en tout, donc quand même une sacrée somme. Alors, une partie de ces primes a bien été payée, globalement, pour la plupart des joueurs et de l'encadrement, au moins jusqu'au quart de finale. Ce qui fait défaut pour le moment, ce sont les primes de demi-finale et de finale, c'est-à-dire de qualification à la finale et de victoire. Alors c'est assez compliqué, certains n'ont, semble-t-il, rien touché du tout. Ah oui. On parle de Serge Aurier, on parle d'Éric Bailly, le défenseur. Alors là, ça peut être aussi un problème de RIB, vous savez...
De relevé d'identité bancaire.
Exactement, ce qui sert à faire un virement de banque à banque, parce que on a décidé d'être moderne, et ça c'est bien, on est au 21e siècle, du côté de l'État ivoirien, on s'est dit, fini les valises de billets, on va faire des virements. Alors certains joueurs, là c'est plutôt de leur faute, et ça pourrait se régler, n'avaient pas donné de RIB. Certains ont touché. Alors, il semblerait que Yaya Touré, par exemple, ait touché lui la prime de victoire, mais n'ait pas touché la prime de demi-finale. C'est Geoffrey Serédier, hein, qui, il y a presque deux semaines maintenant, l'aboyeur en chef, l'ambianceur également de vestiaire, un des leaders charismatiques de ce groupe, l'un des tout meilleurs joueurs également de la dernière CAN, Geoffrey Serédier, milieu de terrain à Stuttgart, qui sur les ondes, l'antenne de la radio nationale ivoirienne, a jeté le pavé dans la mare.
Il faut dire qu'il y avait des rumeurs quand même auparavant, qui disaient que les joueurs n'avaient pas encore perçu leur prime et lui en fait n'a fait que confirmer ces rumeurs.
Exactement. Alors pour la plupart de ces joueurs, sont pas des sommes faramineuses. C'est pas tant pour l'argent, c'est pour le principe. Ah, c'est le principe. Ils ont bien raison. Oui. C'est pour le principe. L'argent, il a bien été décaissé. Encore une fois, il s'agit de savoir où il est passé. Vous le disiez tout à l'heure, Hervé Renard confirme que lui, il n'a pas touché la prime pour la finale et la prime pour la victoire. Alors, il faut bien différencier aussi ce qu'avait promis le chef de l'État, Alassane Ouattara. Ce qu'il avait promis au moment de la victoire, ils l'ont bien touché, les joueurs. C'est-à-dire une maison chacun et en gros l'équivalent de 45 000 euros, 30 millions de francs CFA. Pareil, 115 000 euros pour Hervé Renard, il les a touchés. Donc ça n'a rien à voir avec les primes promises par le chef de l'État. On parle bien des primes qui avaient été décidées. Alors, la Fédération Ivoirienne de Football, a priori, elle peut pas être poursuivie parce qu'elle n'a pas géré cet argent.
Qui
cet
argent-là, alors
il est géré par un monsieur qui s'appelle Patrick Yapi, qui est le régisseur des équipes nationales, des compétitions nationales. Il est détaché du ministère de l'Économie et des Finances depuis 7 ans auprès du ministère des Sports. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a depuis la nuit des temps une guerre entre le ministère des Sports et la Fédération Ivoirienne de Football. Ces deux parties-là ne s'aiment pas beaucoup et depuis 15 jours, elles se rejettent la faute.
Ouais, la FIFA
dit, mais nous, on ne gérait pas. Le ministre qui se sent accusé dit dimanche au micro d'Emmanuel Coffi, on l'a entendu hier soir sur nos antennes avec Christophe Jousset dans les journaux des sports, ah mais si je suis fautif qu'on me mette tout de suite à la prison à la BACA j'ai bien retenu le nom de la prison d'Abidjan,
d'Abidjan.
Donc voilà, donc chacun se renvoie la balle et a priori les soupçons, enfin pas les soupçons mais on aimerait bien avoir des explications de ce Patrick Yapi qui dit par exemple ah ben il y a 180 millions de francs CFA, je m'en suis servi pour financer d'autres compétitions.
Ah bon,
oui, mais c'était pas prévu dans ce budget là. Et puis il y a 320 millions de francs CFA, si vous faites le compte on arrive à 500 millions, on n'est pas loin de ce qui manque. Ah ben c'est pour la prise en charge des invités pendant la CAN. Ah dites donc, alors là ce sont des invités qui ont dû être bien logés, sûrement dans les grands hôtels de Malabo et ailleurs.
En tout cas il va falloir régler cette affaire au plus vite puisque les éliminatoires pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations ne vont pas tarder. Il va y avoir des premiers matchs amicaux je crois de la Côte d'Ivoire, c'est contre le Gabon dans un peu plus d'un mois. Le 10 juin il va falloir régler cette affaire quand même avant cette rencontre.
Oui, la plupart des joueurs aimeraient bien que ce soit le cas, on a encore entendu hier Salomon Kalou s'exprimer sur le sujet, qui disait c'est pour le principe, il faut payer, c'est de l'argent qui était prévu, donc on aimerait bien savoir où il est passé.
Sinon ça va, il faut payer, sinon ça va créer des divisions, et ce n'est pas ce dont on a besoin, a-t-il dit.
Non, parce que le problème, c'est que, c'est pas ce qui fera rester ou partir Hervé Renard, mais on sait très bien, a priori, qu'Hervé Renard, à la fin de la saison européenne, il nous avait donné ce rendez-vous il y a quelques semaines, va sans doute annoncer qu'il part ailleurs, il a besoin d'autres challenges. Bah voilà, si Hervé Renard s'en va, qu'il y a une histoire de problème de primes, d'argent, de querelle entre le ministère et la FIF, tout ça n'est pas très très sérieux. Comme disait Alain Gouaméné, le vainqueur de la CAN 92, entraîneur de la SEC Abidjan, il disait, Alain Gouaméné, on a mis 23 ans avant de gagner une deuxième CAN, c'est un événement, et là on est en train de tout déballer sur la place publique, on aurait pu laver notre linge sale en famille, en Côte d'Ivoire on ne sait pas le faire, il est assez sage Alain Gouaméné, c'est vrai que c'est dommage que cette histoire en arrive là.
Merci beaucoup Olivier Pron,
je vous en prie.
Et on aura peut-être l'occasion de parler de cette affaire des primes impayées en Côte d'Ivoire dans la Libre Antenne vendredi, évidemment vos réactions,
un dernier
vos commentaires.
Mot, juste... L'enquête est en cours depuis jeudi. C'est quand même le ministre d'État, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, qui a pris le dossier en main et qui travaille avec toutes les parties pour en savoir plus. J'espère que ce sera le cas dans les jours qui viennent.
Et d'ailleurs, il a réuni tout le monde autour de sa table la semaine dernière.
Ouais.
Effectivement, jeudi dernier. Merci Olivier Pron. À bientôt Fulgence. Merci de nous écouter à Abidjan où il est 8h18. Ce sont vos questions à la rédaction 33 9 693 693 70. Plusieurs questions sur le Yémen. Le Yémen. Bart est avec nous, il nous appelle du Togo. Bonjour Bart.
Bonjour Ron Gomez.
Bienvenue, on vous écoute.
Bonjour à tous les auditeurs d'RFI. J'ai dernièrement appris que l'Arabie Saoudite à la tête de la coalition arabe veut lancer l'opération Restauration de l'espoir au Yémen. Alors ma question est celle-ci. Quelles sont les raisons, les objectifs et les moyens de cette nouvelle opération militaire?
Oui, l'Arabie Saoudite qui a effectivement annoncé il y a maintenant 2 semaines l'arrêt de son opération aérienne contre les rebelles au Yémen et le début, effectivement, vous le disiez, Bart, d'une nouvelle phase baptisée Redonner l'espoir. Sami Boukhalifa du service international est à mes côtés. Bonjour Sami.
Bonjour à tous.
Alors, il faut d'abord préciser à Bart que cette nouvelle opération baptisée Restaurer l'espoir n'est pas une opération militaire.
Tout à fait. Donc voilà, c'est pas une opération militaire, c'est une opération plutôt politique. Vous savez, l'opération militaire qui était baptisée ou qui est baptisée tempête décisive a pris fin officiellement le 21 avril dernier. Je dis bien officiellement parce qu'officieusement elle est toujours en vigueur puisque les Saoudiens, voilà, donc hein. les bombardements continuent. Les Saoudiens, le jour où ils ont annoncé officiellement l'arrêt de cette opération militaire, ils ont tenu à préciser les choses. On se réserve le droit d'intervenir si on constate des mouvements suspects sur le terrain pour empêcher les Houthis de continuer leur offensive donc au Yémen. Donc pour revenir à cette opération Restaurer l'espoir, vous savez, c'est une opération qui vise à rétablir le dialogue national entre les différents groupes yéménites.
Mais ce dialogue, il existait déjà.
Tout à fait, ce dialogue, il n'a absolument rien de nouveau. Il a été mis en place après l'accord de la transition, vous savez, en 2011. Donc il faut revenir un peu en arrière. En 2011, cet accord avait mis fin aux violences qui avaient suivi, vous savez, le mouvement des printemps arabes et qui avait conduit à l'époque au départ de l'ancien président Ali Abdallah Saleh. Donc, vous savez, le dialogue, ce dialogue vise à rétablir une certaine confiance entre le président actuel Abdrabou Mansour Hadi et le représentant de la société civile ainsi que les différents partis politiques parmi lesquels le parti Ansarullah qui est le parti donc des miliciens houthis. Et jusque-là, ce parti voulait être davantage représenté au sein du gouvernement et c'est pourquoi donc ils se sont lancés dans cette offensive militaire.
En tout cas, c'est pas gagné la réussite de ce dialogue.
Ouais, malheureusement, c'est pas gagné parce que vous savez, les Houthis disent qu'ils ne veulent pas dialoguer avec le président actuel, donc Abdrabou Mansour Hadi, qui est considéré comme un pantin en fait, voilà, qui est dirigé par les Saoudiens.
Autre question, toujours sur le Yémen. Cheikh, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Bonjour. Vous nous appelez de Kati. Kati, c'est à quelques kilomètres de Bamako, la capitale malienne. Quelles sont vos questions, Cheikh?
J'ai entendu que l'Arabie Saoudite va cesser ses opérations aériennes au Yémen. Je voudrais savoir, est-ce que l'Arabie Saoudite va envoyer des troupes au sol?
Ah, l'Arabie Saoudite va-t-elle déployer des troupes au sol maintenant qu'officiellement les bombardements aériens sont interrompus? La réponse, Samy, vous l'avez?
Il y a deux versions. On commence par laquelle? Donc la version officielle. Allez, donc la version officielle, c'est non. C'est non. Pas de troupes au sol, avait déclaré. Vous savez, les responsables saoudiens. Je pense notamment à l'ambassadeur saoudien à Washington, qui avait exclu cette option. Enfin, exclu cette option d'un côté, mais qu'il avait laissé plus ou moins sur la table en disant on se réserve encore une fois le droit et on verra plus tard. Donc au plus fort de l'opération, cette option était sur la table. Aujourd'hui, on l'a dit, l'opération Tempête décisive a touché à sa fin. Mais de fait, vous le savez, lorsque des pays mènent des offensives aériennes contre un ennemi, de fait, il y a des troupes au sol, ne serait-ce que pour la coordination des frappes. Dans le cas de cette coalition de pays arabes qui est emmenée par l'Arabie Saoudite, eh bien, à un moment, des forces spéciales saoudiennes seraient intervenues, on parle au conditionnel, intervenues sur le terrain au Yémen. Donc rien n'est officiel, mais selon certaines sources, ces forces spéciales de la marine saoudienne seraient intervenues sur des missions spécifiques avec des objectifs précis, comme alimenter en armes et en matériel de communication les partisans du président Abdrabou Mansour Hadi. Un exemple de leur intervention. Ce week-end, ces troupes auraient été aperçues dans la ville d'Aden. Il y avait aussi une autre mission, c'était fin mars, début avril, dans le détroit stratégique de Bab el-Mandeb. Et donc, ces forces seraient intervenues pour déloger des rebelles chiites qui avaient pris d'assaut l'île de Moïn. Vous savez, c'est une île où il y avait des équipements militaires et des missiles qui étaient stockés et qui ont fini par être détruits par les raids aériens de la coalition. Donc, après, la question qui se pose aussi, c'est pourquoi ne pas le reconnaître officiellement? Eh bien, le général Ahmad Assiri, qui est le porte-parole de la coalition, avait répondu à certains journalistes qui lui avaient posé la question en disant « La sécurité de l'opération Tempête décisive est trop importante pour nous pour que cette question soit abordée par les médias. » Cette réponse ne vaut absolument rien dire. Hein, mais bon.
Voilà. Donc officiellement, pas d'hommes au sol, mais en même temps, on a certaines informations qui nous permettent d'affirmer qu'il y a quand même des forces spéciales saoudiennes sur le terrain.
Tout à fait. Écoutez, ce genre d'opération en principe est menée de telle manière. Donc il faut des hommes au sol pour mener ce genre d'opération.
Merci beaucoup Samy Boukhalifa d'être venu répondre à ces deux questions sur le Yémen. Voilà, ça se passe comme ça tous les matins sur l'antenne des RFI. Vous souhaitez mieux comprendre l'actualité, et bien surtout n'hésitez pas, appelez-nous 339 693 693 70. Idrissa est avec nous, il est enseignant en primaire, c'est ce que je lis sur ma petite fiche. Bonjour Idrissa.
Bonjour.
Vous nous appelez de Tombouctou au Mali et vous avez des questions concernant cette affaire en Allemagne, mais qui concerne aussi la France, une affaire d'espionnage.
Tout à fait, tout à fait. Bien, en fait, j'ai deux questions par rapport à l'espionnage américain.
Mmh.
Pourquoi les États-Unis espionnent les entreprises françaises et les cadres français?
Ah, vous faites référence au fait qu'effectivement la presse allemande affirme que l'Allemagne a procédé à plusieurs écoutes de hauts fonctionnaires français, notamment à l'Élysée, au ministère des Affaires étrangères, mais aussi à des écoutes de plusieurs entreprises européennes, et pas les moindres, elles sont stratégiques, tout cela pour le compte de la NSA, donc des Américains, l'agence de renseignement américaine. Jean-Marc Manac est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct. Vous êtes journaliste d'investigation au site arretsurimage.net. Vous êtes spécialiste hein, des questions de d'espionnage et de surveillance. Est-ce que vous êtes surpris déjà par l'information délivrée par nos confrères allemands il y a quelques jours?
Surpris, non. Maintenant, on attend d'en savoir plus. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la mission des services de renseignement, c'est de défendre les intérêts de leur pays. Donc défendre les intérêts de leur pays, ça veut dire d'une part effectivement lutter contre le terrorisme, mais ça peut aussi entraîner de l'espionnage économique. Et on sait que ça se pratique, ça s'est toujours pratiqué. Il y a toujours eu des espions qui essayaient de voler des secrets industriels. Les Chinois le font, les Russes le font, les États-Unis le font. Là, ce qui était assez étonnant, c'est effectivement de voir que les services de renseignement allemands le faisaient pour le compte de la NSA et pour le compte des services américains.
Et parmi les entreprises espionnées, je le disais, des entreprises stratégiques, notamment Airbus, Eurocopter. Quel intérêt les Allemands ont-ils à aider les Américains à nous espionner?
Alors, il faut comprendre que les services de renseignement font du troc. Je te donne telle information, tu me donnes telle autre information. Et donc, dans le cas de ces opérations de troc, eh ben, il peut y avoir des opérations, des contrats qui sont derrière. Je vais vous donner un exemple. Dans les années 90, la NSA avait intercepté des communications téléphoniques du Premier ministre français qui révélaient des informations très sensibles sur un contrat portant sur des avions. À partir du moment où les Américains ont eu ces informations sensibles, ils ont pu faire une contre-proposition et la France a perdu le contrat et c'est l'entreprise américaine qui a remporté le contrat. On a eu un autre exemple avec un système de surveillance de la forêt amazonienne qui de même n'a pas été confié à une entreprise française mais à une entreprise américaine parce qu'apparemment les services allemands, américains avaient réussi à intercepter des communications qui montraient que des officiels français, enfin des responsables français essayaient de corrompre des Brésiliens. Donc, quel est l'intérêt des Allemands de travailler à la NSA? C'est que, en contrepartie des informations que les services de renseignement allemands vont confier aux services de renseignement américains, les services allemands vont eux aussi bénéficier d'autres informations.
Ouais, après, bon, il reste à déterminer si l'Allemagne a véritablement aidé les Américains à espionner nos entreprises stratégiques européennes et françaises, ou si la NSA a peut-être abusé du dispositif pour nous espionner. Peut-être qu'une enquête parlementaire le dira prochainement. En tout cas, ce que je comprends, vous écoutant, Jean-Marc Manac, c'est que tout le monde s'espionne, même entre pays alliés et même entre pays amis, puisqu'on peut pas remettre en cause l'amitié franco-allemande.
Tout à fait. Alors apparemment, d'après les déclarations qui ont été faites hier au Quai d'Orsay, la diplomatie allemande a rassuré la France quant au fait que ces pratiques avaient cessé et que tout se passait bien. Mais effectivement, il y a entre services de renseignement, il peut y avoir des alliés, mais il n'y a pas vraiment d'amis. Et c'est tout le problème.
Ça, c'est bien résumé. Des alliés, mais pas forcément des amis. Merci beaucoup, Jean-Marc Manac, d'avoir été avec nous, spécialiste donc des questions d'espionnage et journaliste d'investigation au site arretsurimage.net. N'oubliez pas vos questions, évidemment, à la rédaction. Demain, vous pouvez nous appeler tout au long de la journée, 33 9 693 693 70. Et dans 10 minutes, juste après le journal, le débat du jour consacré à la réélection de Fornia Simbe, troisième quinquennat pour le président sortant. Et l'opposition qui conteste ce scrutin mais qui n'a pas saisi la Cour constitutionnelle, qui n'a donc pas déposé de recours légal. Comprenez-vous l'attitude de l'opposition togolaise? On en parle évidemment et vous êtes déjà nombreux à patienter au standard. À tout de suite.
C'était Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et paiement mobile.